8h16 sur Europe 1. L'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des sports.
Bienvenue à vous et bonjour Roxana Maracineanu.
Bonjour.
Et tout d'abord, écoutez. Français Julien Alaphilippe qui remporte le titre de champion du monde de cyclisme, le dernier sacre français daté de 97. Comment vous qualifiez son exploit ?
Bah écoutez, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'on l'avait vu sur le Tour gagner une étape, porter le maillot jaune et puis malheureusement devoir lâcher sur la fin. Donc là, on est très heureux que dans ces championnats du monde, ça ait abouti et que cette reprise, qui était difficile pour tout le monde après le Covid, eh bien, ça ait pu lui réussir d'aussi belle manière, puisque ça fait 23 ans que la France n'avait pas remporté des championnats du monde en cyclisme.
23 ans, ça fait du bien de démarrer avec cette bonne nouvelle, parce qu'il y a maintenant la dure réalité, notamment, Madame la Ministre, des salles de sport fermées dans les zones d'alerte renforcées et maximales. Qu'est-ce que vous allez faire très concrètement pour éviter une cascade de faillites dans ce secteur ?
Oui, le sport est le premier secteur à avoir dû faire des efforts pour endiguer cette reprise. Cette propagation du virus nouvelle aujourd'hui. Les salles de sport seront compensées totalement. Il y aura jusqu'à 10 000 euros d'aide pour ce mois-ci par propriétaire de salles de sport, une exonération des charges et puis faire en sorte qu'elles ne perdent pas d'argent, même si on sait que dans ces salles de sport, dans les associations, eh bien c'est le mois de septembre, d'octobre qui compte, puisque c'est là qu'on inscrit les nouveaux arrivants et qu'on les fidélise pour la suite de l'année.
Et vous entendez ce qu'ils vous disent ? D'abord, ils poussent un cri de désespoir. On estime à 10 000 emplois menacés d'ici à la fin de l'année. Et vos mesures, c'est un petit peu un sparadrap sur une jambe de bois.
Aujourd'hui, il faut qu'on les soutienne pour qu'elles passent cette bosse, j'allais dire, qui va durer, on l'espère, que 15 jours, un mois. Et puis après, l'activité reprendra. Aujourd'hui, j'ai défendu et plaidé et j'ai obtenu que les associations, notamment celles qui reçoivent, qui accueillent des enfants, puissent continuer à avoir accès aux salles de sport, aux gymnases
et aux piscines. Donc les mineurs, oui, pour les clubs de sport, c'est bien ça.
Voilà,
mais les salles de sport restent fermées.
Les mineurs et les majeurs dont c'est le métier et qui pratiquent à haut niveau ou en sport professionnel pourront avoir accès si toutefois les piscines viennent à être fermées sur décision du préfet, puisqu'elles sont ouvertes aujourd'hui, et si les salles de sport et les gymnases effectivement ferment leurs portes comme il a été demandé. Néanmoins, ces publics prioritaires pourront y avoir accès.
Mais en fermant les salles de sport, vous laissez à penser, Madame la Ministre, qu'elles sont des foyers de contamination. Est-ce que c'est le cas ?
Bah écoutez, on ne porte pas de masque, on respecte la distanciation. Il y a effectivement des protocoles travaillés par tous ces acteurs depuis le mois de mars avec nous.
Il faut le reconnaître.
Ils les respectent, ils accueillent déjà moins de gens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en milieu confiné, on peut se transmettre le virus si on n'a pas de masque. Et puis surtout, s'il y a un cas avéré dans une salle de sport, tous ceux qui sont en salle de sport seront considérés comme cas contact puisqu'ils ne portent pas de masque. Et ça les pénalisera aussi dans leur vie personnelle et
professionnelle. Oui, mais je vous soumets quand même ces chiffres. 27 millions de passages dans les salles de sport pour 207 cas avérés. 207 cas.
Les décisions aujourd'hui ne sont pas prises en fonction d'une réalité qui serait celle de la circulation du virus, puisqu'on ne sait pas comment le virus se transmet clairement aujourd'hui. Les décisions qui ont été prises, c'est pour dire, dans votre vie personnelle et de loisirs, il faut continuer à être discipliné comme vous l'êtes lorsque vous avez la pression sociale de la vie en collectivité, au travail, dans les transports ou dans la rue. Il faut que dans notre vie sociale, à tous, eh bien, on continue à faire attention parce que pour éviter un deuxième confinement total.
Alors, coup d'envoi hier du tournoi de Roland-Garros. Vous avez sans doute écouté tout à l'heure Novak Djokovic, sur Europe 1. La jauge des spectateurs pour les grands événements est passée de 5000 à 1000 pour Roland-Garros. Est-ce que c'est un tournoi à minima ?
Alors, ce n'est pas que pour Roland-Garros, encore une fois. Cette jauge-là doit être respectée dans tous les secteurs d'activité, culturels, sportifs, dans la société, dans les rassemblements, dans les zones les plus touchés aujourd'hui, et il faut que vraiment nous respections cette jauge. Je comprends bien avec les organisateurs, et c'est un crève-cœur pour moi, pour avoir travaillé avec ces organisateurs depuis des mois, une jauge qui a bougé. En plus, là, depuis deux semaines, il faut voir la rapidité avec laquelle nous sommes allés vers ces 1000 personnes. Mais voilà, il faut qu'on s'y plie, il faut qu'on fasse tous un effort pour que ça puisse repartir.
1000 personnes sur 12 hectares, avec un rapide calcul, ça fait 120 mètres carrés par personne, c'est-à-dire 100 fois plus que la norme de distanciation sociale de 1 mètre mètres par personne. Il faut se rendre compte que vous trouvez ça logique?
Écoutez, ces personnes, elles vont être rassemblées dans un même stade, à suivre le même match. C'est vrai qu'on peut avoir plus de place dans un stade avec suffisamment d'espace. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit vraiment voilà, disciplinés par rapport à ces mesures. Il faut qu'on veille tous ensemble à ce que cette deuxième vague n'arrive pas. Et je le dis pour les personnels médicaux qui sont vraiment, qui voient
bien
le train
sûr
arriver à toute grande vitesse.
Ça fait deux fois que vous nous dites, Roxana Maracineanu, attention à la deuxième vague. Est-ce que vous prévoyez, est-ce que vous avez sur votre table un scénario de reconfinement, donc de suspension des matchs de foot, de rugby, si la situation s'aggrave encore?
Bien sûr qu'avec les acteurs du sport, on réfléchit aussi à une reconfiguration, y compris des compétitions. Si jamais il y a des limitations de déplacement, comment continuer à exercer, voire à se contenter uniquement de l'entraînement et réduire le circuit de compétition.
Ce scénario est sur votre table.
Depuis le début, de toute façon. Depuis le mois de mars, c'est ce que nous travaillons avec les fédérations et les instances sportives pour être prêts à tout. Et c'est la capacité et la résilience de tous ces acteurs qui fait que nous pouvons nous adapter, même si je conçois que c'est difficile pour tout le monde. Mais heureusement, en face, le gouvernement fait tout pour soutenir économiquement ces acteurs.
Alors, il y a les autres défis dans le sport. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot, a suscité beaucoup de réactions, affirmant, je cite, que le phénomène raciste dans le sport et dans le foot n'existe pas ou peu. Il a précisé ces jours-ci sur Europe 1, je cite, que le foot n'est pas porteur de racisme. Au contraire, dit-il. C'est du déni.
Le sport, c'est vrai que dans la majorité, la grande majorité des associations aujourd'hui, ce qui est proposé, ce qui est inculqué par les éducateurs, c'est des notions de tolérance, de vivre ensemble, d'acceptation de l'autre. Néanmoins, il reste évidemment dans certaines associations, dans certains clubs, puisque nous ne sommes pas derrière chaque club, des phénomènes de discrimination, des phénomènes aussi de communautarisme, de séparatisme. Et il faut que nous allions plus loin sur cette thématique. Il ne vous aura pas échappé que mon ministère a renoué depuis deux ans maintenant avec ses missions régaliennes de protection des publics et de lutte contre les discriminations.
Je vous ferai réagir sur la phrase quand même de Noël Le Graët qui dit qu'il n'y en a quasiment pas. Est-ce que c'est du déni? C'est important quand même. Il est le président de la Fédération française de foot.
Il faut que les fédérations s'engagent contre la lutte contre les discriminations. Si, bien sûr, je le dis clairement, les présidents doivent être à nos côtés et seront de plus en plus à nos côtés pour contrôler ce qu'il se passe dans leurs associations affiliées, ce qui se passe dans leurs compétitions. Et vous le savez, depuis le début, moi j'ai pris cette question à bras-le-corps et j'ai demandé des comptes, que ce soit à Noël Le Graët, que ce soit à d'autres présidents de fédérations qui ont dû répondre de choses qui se passaient depuis longtemps dans leur fédération ou plus récemment des choses qui effectivement pouvaient paraître normales et qui aujourd'hui ne le sont plus.
Alors d'autres menaces pèsent sur le monde du sport. Il y a le racisme, l'homophobie et la radicalisation. Cette menace notamment est étayée dans un livre édifiant intitulé Le Livre Noir sur le sport de Patrick Karam et Magali Lacroze. En tant que ministre des Sports et ancien évidemment grande sportive, vous découvrez l'ampleur du phénomène de radicalisation.
Alors aujourd'hui, on a besoin d'objectiver la situation réelle de la place du sport dans ce phénomène de radicalisation. Aujourd'hui, c'est basé effectivement sur des on-dit, sur des choses qu'il y a dans des livres qui paraissent, mais il n'y a pas de données objectives pour pouvoir mesurer cette radicalisation
dans le sport. Des on-dit, Madame la Ministre ?
Oui, bien sûr, des on-dit. J'ai entendu même qu'il y avait la moitié de l'équipe de France qui, semblerait-il, était fichée S. J'ai entendu de la part de la bouche de certains qui disaient ça.
Qui
évidemment, tout ça, un sénateur, beaucoup de personnes qui se servent du sport aussi pour dire que les radicalisés sont dans le sport. Évidemment, les personnes radicalisées sont passées
sans doute
par un club
directement
de sport. Aujourd'hui, cette thématique est prise à bras-le-corps depuis 2015.
Est-ce que vous faites preuve d'angélisme sur ce sujet ou est-ce que vous considérez que le communautarisme, que le séparatisme dans le sport notamment, et je m'appuie sur une enquête aujourd'hui dans Le Parisien, qui évoque ces entailles à la laïcité, notamment dans les clubs de sport. Est-ce que ça existe ?
Bien sûr, je ne vais pas nier le fait que ça existe. Ça existe dans certains clubs. Maintenant, nous faisons tout ce que nous pouvons et nous allons faire encore plus. Nous avons aujourd'hui 250 référents citoyenneté, laïcité, lutte contre le séparatisme, à qui on peut faire remonter les signalements, qui nous les remontent. Nous avons des contrôles renforcés avec le ministère de l'Intérieur.
Fois que c'est remonté un signalement, que faites-vous ?
Donc, nous faisons des contrôles ciblés avec le ministère de l'Intérieur. Nous en avons fait à peu près 300 en 2019. Sur les 300 que nous avons fait, il y a eu seulement 5 fermetures. Et les 5 fermetures n'étaient pas expressément dues à la radicalisation. Donc, c'est pour ça que je dis, on en parle beaucoup. La réalité du phénomène mérite aujourd'hui d'être mesurée. Il n'empêche que je veux engager les fédérations.
Comment allez-vous mesurer ? Je vous donne un exemple en m'appuyant à la fois sur le livre que je viens de citer et l'enquête du Parisien. Des prières dans les vestiaires et même sur le terrain, ces situations existent.
Alors, il est certain que dans une association sportive, c'est l'objet sportif qui doit primer. On ne doit pas se réunir pour exercer une religion ou pour faire autre chose que du sport. Donc, dès que ces phénomènes sont repérés dans des associations, il faut alerter les référents qui sont dans chaque fédération et dans nos services déconcentrés, qui feront remonter ces informations, on viendra contrôler. Maintenant, quand on va contrôler sur le terrain, ce n'est pas toujours simple de repérer ces signaux faibles de radicalisation. Donc, nous devons éduquer, sensibiliser tous les éducateurs sportifs. Mm-hmm. Nous devons les former à cette thématique qui, évidemment, est nouvelle dans notre société.
Mais des sportifs qui refusent d'avoir un entraîneur féminin, des sportifs qui refusent de serrer la main d'une femme, c'est une réalité qui progresse, est-ce que vous le reconnaissez ? Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une part d'angélisme. Ou alors vous nous dites non, on prend à bras le corps ce phénomène aujourd'hui.
Alors je le redis, on prend à bras le corps ce phénomène et aujourd'hui nous allons encore renforcer la responsabilité des fédérations puisque ces associations sont affiliées à des fédérations. C'est elles qui doivent être responsables des valeurs de la République puisqu'encore une fois, ces fédérations ont délégation de services publics, ces fédérations sont agréées par l'État et un club sain, c'est un club républicain. C'est les principes de la République qui doivent primer dans une association sportive.
Vous avez lu le rapport ?
Et nous veillons à cela.
Sur le rapport sur la radicalisation des députés Éric Diard et Pouya, vous l'avez lu ?
C'est de ce sénateur dont je vous parlais tout à l'heure. Qui
vous
dit
avez mis du temps à les recevoir.
Qui dit, pas du tout, on les a reçus, on leur a donné rendez-vous, on les a reçus.
Mais assez rapidement,
vous savez, le sport,
certains disent que vous n'aviez pas pris à bras le corps justement
ce sujet. Vous savez, le sport, c'est souvent l'antichambre de la célébrité pour beaucoup de personnes qui n'ont pas d'espace médiatique. Et évidemment, dire que nous avons tardé à les recevoir.
Ce sont des parlementaires sérieux quand même, sérieux sur ce sujet.
Que la radicalisation est un phénomène de société. Vous savez, toutes les personnes radicalisées ont bu et mangé pendant les 24 heures avant de passer à l'acte aussi, donc avec aujourd'hui 16 millions de Français qui pratiquent dans un club, il est tout à fait normal qu'on retrouve des personnes qui ont eu une licence dans leur vie dans un club parmi ces personnes radicalisées. Il y a beaucoup de personnes qui font du sport en France, donc inévitablement on va les retrouver dans des clubs, ce qui ne veut pas dire que c'est un phénomène rampant dans le sport français.
Mais vous reconnaissez qu'il existe et on verra ce que le projet de loi sur le séparatisme comportera sur ce volet sportif.
Nous avons des belles mesures qui concernent le sport en ce sens.
Merci Madame la Ministre Roxana Maracineanu d'avoir été notre invitée. Belle journée à vous ainsi qu'à